Eh bien, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, ça va bien? Demain, c'est le mois de février. C'est un mois que j'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Eh oui. Voilà, je voudrais vous parler encore de notre nouveau livre, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est un livre de 349 pages avec plein de photos qui racontent l'histoire invraisemblable qui nous est arrivée depuis le 27 juin 2014. On commence déjà à oublier. Hein. Maintenant que c'est écrit, c'est passé. Ok, alors si vous pouvez pas, vous pouvez l'avoir en livre, c'est sûr, mais le mieux, c'est pour vous, ça coûte moins cher. C'est de le commander en PDF. Alors vous allez sur révélationbible.fr et puis en première page vous allez voir il y a un petit rectangle qui explique ce que c'est que le livre et en cliquant sur la photo vous tombez sur le livre entier avec toutes les photos et tout et vous pourrez le lire et connaître toute l'histoire. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose d'important qui nous est arrivé et qui peut vous bénir, vous aider. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça leur a donné des idées pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, que Dieu soit béni. On va lire maintenant dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Amen. On s'arrête là, je prêcherai encore dimanche prochain sur la suite au sujet de l'autre arme qui nous est donnée par Dieu, une arme qui lui appartient mais qui nous donne. Et je vous disais dimanche passé que Jésus se tient nuit et jour auprès du Père pour plaider en notre faveur. Alors quand on a un avocat comme Jésus qui présente son sang au Père afin de plaider notre cause, pauvre diable, il est vraiment découragé. Qu'est-ce que vous voulez ? La Bible dit qu'il veut nous accuser devant Dieu, il cherche à nous accuser. Mais il y a là Jésus qui plaide notre cause, il est découragé, le diable est découragé. C'est pourquoi il abandonne un petit peu ce rôle d'accusateur devant Dieu pour venir nous accuser nous directement. Il est vraiment au bout du rouleau, le pauvre. Il vient essayer de nous décourager à domicile. Et comme il est un esprit qui n'est pas à plusieurs endroits à la fois, il envoie ses sbires, des démons qui viennent pour vous tenter. Et puis une fois que vous avez succombé à la tentation, ils vous accusent, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, il s'ingénie aussi à envoyer des gens qui sont des pervers narcissiques, des gens qui viennent pour vous accuser, pour vous décourager, pour vous déstabiliser, ou tout simplement des gens charnels, des gens un peu bébêtes. Et ils viennent pour vous décourager, vous tenter, vous accuser. Mais nous savons tout ça. Nous savons cela. Alors, on agit en conséquence. On ne se laisse pas faire. Dieu nous a donné ses armes. Nous avons parlé de la ceinture de la vérité, puis de la cuirasse de justice, puis des chaussures du zèle. Ce matin, je vais vous parler du bouclier de la foi. Tout ce que font Satan, ses démons et les gens charnels est comparé à des traits enflammés tirés contre l'Église, c'est-à-dire contre les membres de l'Église, pas contre les bâtiments, hein. Vous avez bien compris. Certaines de ces flèches ont pour but de saper notre foi en jetant des doutes en nous. Et on le sait. Donc, si on a le bouclier, On n'est pas blessé par ça. Le doute. Vous savez, Camélia, la gitane, elle me disait, le diable, les démons, les gens désagréables, tout ça, ils sont comme des chiens. Ils aboient très fort, ils courent très vite jusque vers vous, mais au dernier moment, ils sont enchaînés. Et au dernier moment, quand ils vous arrivent dans la figure, hop, ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils sont enchaînés. Et vous avez le bouclier. Alors, de temps en temps, vous pouvez prendre un choc, parce qu'ils s'approchent près, tout près, mais c'est juste un choc, c'est pas quelque chose qui est déstabilisant au point de vous faire abandonner la foi. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on voit qu'elle a été déboussolée par des doctrines de démons, à cause de personnes qui avaient une conscience qui n'était pas correcte. C'était des gens qui n'étaient pas vraiment nés de nouveau, et qui ont pris position dans l'Église, et qui ont commencé à semer la panique. Et en cette fin des temps, l'Église est également, sinon plus, déboussolée que jamais. Paul l'avait prophétisé, et on va le lire, c'est dans 1 Timothée 4.1, je vous lis le texte. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Alors vous savez que moi j'aime bien lire dans plusieurs versions, ça c'est la dernière version, avec les notes archéologiques et historiques, c'est une très bonne version, mais j'aime bien aller regarder, j'ai plus de 40 versions différentes, et j'ai cherché, j'en ai trouvé une qui est excellente, voilà ce qu'elle dit. C'est le même texte. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'abstiendront de la certitude en Christ, s'attachant à des raisonnements séducteurs et à des doctrines de dérèglement de conscience, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera marquée au fer rouge. Ah, c'est quand même pas très différent, mais ça donne une... Là, vous le voyez en stéréo, là, vous le voyez en relief, en 3D. C'est plus subtil. Des doctrines de dérèglement de la conscience. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous explique. Pour éviter ces doctrines-là de dérèglement de la conscience, tout ce que vous faites... Faites-le au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire au nom du Seigneur Jésus quelque chose qui ne va pas dans l'idée de Jésus, dans la pensée de Jésus, dans la volonté de Jésus, dans ce qui est écrit au sujet de Jésus dans la Bible. Vous ne pouvez pas. Donc, déjà là, si vous faites les choses au nom de Jésus, vous blindez. Vous ne faites rien en dehors de ce qu'un chrétien a le droit de faire. Donc tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus avec un engagement absolu. Ne vous mettez pas de barrière, de misérabilisme, à aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, à fond, mais faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en agissant ainsi que vous connaîtrez la douceur d'être conscient de la présence de Dieu. Pas de ressentir, mais d'être conscient de la présence de Dieu. Les faux docteurs vous apportent des doctrines de dérèglement de cette conscience-là, de la conscience de la présence de Dieu et de la crainte de l'Éternel qui est le début, le commencement de toute sagesse. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas faire autre chose, au nom de Jésus, vous ne pouvez pas faire une chose si elle n'est pas ce que Jésus veut, ce que Jésus permet dans les Saintes Écritures. D'accord ? Donc vous êtes protégé un maximum. Vous voyez, certains, comme dit ce texte, s'abstiendront de la certitude en Christ. C'est-à-dire qu'ils renoncent, ils s'abstiennent, ils se retirent, ils retranchent donc de la base qui est la confiance, la certitude que nous avons en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, ressuscité, assis à la droite de Dieu, plaide dans notre cause, qui nous donne la victoire en toutes choses, qui ne nous accuse pas, mais qui nous défend. Eh bien, si on s'abstient de cette certitude en Christ, on va chercher des certitudes ailleurs. Parce que la nature a horreur du vide. Alors, il s'attache à des raisonnements. À des raisonnements qui peuvent être séducteurs, comme par exemple le purgatoire, comme par exemple la réincarnation, comme par exemple le salut par les œuvres, et puis alors on peut en rajouter, en rajouter, en rajouter. Des doctrines de dérèglement de la conscience, on n'est plus conscient de ce que Dieu veut, de ce qu'est la volonté de Dieu. On n'est plus conscient de la vérité. Donc on ne peut pas avoir la foi, puisque la foi elle vient de la vérité, elle vient de la parole de Dieu. Si on prend des certitudes ailleurs, on est fichu. Et alors, ces gens-là, ils éloignent le peuple de la conscience juste. Ainsi, les gens n'auront plus la conscience de la vérité, de Jésus, de la vérité de ce qu'il dit. Jésus dit « Je suis la vérité ». Et quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Et ce qu'il dit, on doit le faire. Il est le Seigneur, il n'est pas un copain à qui on obéit, si ça nous fait plaisir, si on a le temps. Alors ces gens-là ont donc une foi erronée et donc ils sont manipulables et par l'ennemi. L'ennemi les manipule parce qu'ils n'ont plus le bouclier de la foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Par exemple, ces gens-là, depuis déjà longtemps, ils ont remplacé 1 Corinthiens 15, 29, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez chercher dans votre Bible, et si vous n'avez pas de Bible, vous vous en achetez une, vous allez sur Google, sur Amazon, vous en achetez une, vous allez dans une librairie chrétienne, et vous en achetez une. Vous allez même à la FNAC, il y en a, à 10 balles, il y en a des Bibles. Il ne faut pas me dire que je ne peux pas. Alors, ils ont remplacé, par exemple, 1 Corinthiens 15, 29, par le purgatoire, par des messes pour les morts, par l'hérésie des cathares au sujet de la réincarnation, parce que ils ne comprennent pas et ils ont rejeté, ils ont abandonné, ils s'abstiennent de ça, ils ne se font pas baptiser pour les morts. Pourtant l'apôtre Paul dit, mais que font ceux qui se font baptiser pour les morts s'il n'y a pas de résurrection? Ça veut dire, puisqu'il y a de résurrection, c'est bien de se faire baptiser pour les morts, sinon ça ne sert à rien. Voilà ce que Paul est en train de dire dans tout ce chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il parle de la résurrection de Christ, c'est ça le thème principal de ce chapitre, et il donne un exemple qui est un exemple frappant de ce qui se passait dans l'église primitive au commencement, les gens se faisaient baptiser pour les morts, voilà, qui n'avaient pas eu l'occasion d'être baptisés quand ils étaient vivants. Et baptisé, je vous rappelle, c'est une immersion, c'est pas 3 gouttes d'eau sur la figure. Alors, certaines de ces personnes disent que ceux qui pratiquent le baptême pour les morts, je l'ai lu encore dernièrement, pratiquent la nécromancie. Alors ça m'a fait hurler de rire parce que ce sont des gens qui nient la parole de Dieu au profit de leur raisonnement, ils nient 1 Corinthiens 15, 29, et ils utilisent un mot dont ils ne connaissent pas la signification. Paul dit, que font donc ceux qui se font baptiser pour les morts? Et la réponse, c'est pas, ils font de la nécromancie. Mais ils savent même pas ce que veut dire la nécromancie. Faire de la nécromancie n'a rien à voir avec le baptême à la place des morts. La nécromancie, c'est un péché très grave. C'est celui d'interroger les morts en vue de faire de la divination. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême pour les morts. Vous voyez, ce sont des faux docteurs qui ne connaissent ni la Bible, ni l'histoire de l'Église, ni la signification des mots même. La signification des mots. Et ils s'attachent à des raisonnements séducteurs et à des doctrines de dérèglement de la conscience. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et nous les voyons, ces gens, ils seront marqués par un fer rouge. C'est Dieu qui va les marquer au fer rouge. Ce ne sera pas la marque du salut, ce ne sera pas la marque pour reconnaître les enfants de Dieu. Ils seront marqués au fer rouge. Dans la version seconde, c'est plus doux. Ils seront marqués. Là, ils seront marqués. C'est différent. Ce n'est pas bon signe pour eux. Mais nous, c'est pas d'eux dont on s'occupe, simplement nous on se protège avec le bouclier de la foi. Ils ont remplacé la foi qui protège, qui guérit, etc., par une certaine autosuffisance, une tendance à vouloir se protéger par leurs propres moyens, avec toutes sortes de fausses assurances, basées très souvent sur le légalisme. Paul disait, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Pas la capacité de tout le monde, la sienne et celle de ses disciples. Donc ce que nous trouvons dans la Bible, c'est quelque chose qui a été donné par Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui avait des raisonnements. Maintenant, je sais que c'est à la mode de douter de l'apôtre Paul. Moi, je ne doute pas de l'apôtre Paul. Il y en a qui ont rien compris à ce qu'il voulait dire et qui se permettent de dire des choses invraisemblables sur l'apôtre Paul. Non, l'apôtre Paul a reçu de Dieu, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, et puis il l'explique. Et quand il dit qu'il y a quelque chose qui vient de lui, il dit, là, ce n'est pas le Seigneur, ça c'est moi qui dis. Il est très honnête, l'apôtre Paul. Donc, si vous faites ou vous croyez, vous pensez des choses qui sont contraires à ce que l'apôtre Paul dit, c'est que vous êtes des gens qui égarez la conscience des autres et vous aurez des comptes à rendre à Dieu et vous allez être marqués par un fer rouge. Alors, les enseignements de ces gens sont acceptés et bien reçus par des pauvres âmes en errance. Ils sont comme la Bible dit, comme des astres errants qui sont là, qui tournent, plutôt que de revenir à la simplicité des Saintes Écritures. On va lire maintenant un autre texte dans 1 Corinthiens 2, 1, 5. Écoutez bien ça. 1 Corinthiens 2, 1, 5. Voilà l'apôtre Paul comment il parle. Pour moi, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors quoi ? C'est ce que nous faisons. Dieu nous en rend témoignage. Où est la démonstration d'esprit et de puissance de ces raisonneurs ? Ils se moquent de ceux qui font les miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le monde à l'envers. C'est l'Église retroussée. C'est l'Église à l'envers. Et qui c'est qui suit ces gens-là ? La foule, parce que c'est écrit, à la fin des temps, ils se donneront une foule de docteurs, qui les caresseront dans le sens du poil. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui a porté nos péchés sont pardonnés, ils sont oubliés, et nous avons confiance en lui, et parce que nous l'aimons, parce que nous avons confiance en lui, nous faisons ce qu'il dit. Nous avons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enfermés du malin. Parce qu'ils existent aussi. Et nous avons confiance en lui, en sa parole, en la parole de qui ? De celui qui a donné sa vie pour nous. Moi, je ne veux pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? La foi, c'est la confiance totale dans le Seigneur qui est exprimée par une communion continue. On se lève et on sait qu'on remet notre journée entre les mains de Dieu, on prie avec mon épouse tous les matins, on prie, on remet notre sort entre les mains de Dieu, on remet le sort de notre communauté entre les mains de Dieu, notre travail entre les mains de Dieu, notre santé, et toutes les choses qui nous concernent, les finances et tout, on remet tout entre les mains de Dieu, on est en communion avec lui, ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout parce qu'on est serviteur des frères et sœurs, et les frères et sœurs sont aussi serviteurs des frères et des sœurs et des uns et des autres. Et on le fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, par amour. On n'a pas une vie privée. C'est quoi ce cirque d'avoir une vie privée? On n'a pas une vie privée. On a une vie de communion. Et on fait tout pour Jésus et pour son Église. La foi, c'est bien plus qu'une croyance intellectuelle. Ce sont des actes, c'est une vie. La foi, c'est une confiance totale en Dieu, qui est notre Rédempteur, et nous croyons que nous avons été crucifiés avec lui, c'est-à-dire que nous sommes morts. Galates 2:20, si on est mort, on n'a plus de problème. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème? On a été crucifié avec Jésus-Christ. Si vous êtes crucifié avec Jésus-Christ, ne vous laissez pas accuser par ces prédicateurs de malheur qui vous comparent au roi machin, à la bonne femme une telle, que des histoires de l'Ancien Testament où il n'y avait pas cette grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et comme Paul, nous prions chaque jour pour que Jésus-Christ demeure dans nos cœurs par la foi. Éphésiens 3:17, nous sommes bien conscients de notre incapacité de pouvoir même demeurer dans la foi tout seul, sans lui. La foi, c'est bien plus qu'une expression de foi en Dieu pour le salut. C'est bien plus que ça. C'est notre façon de vivre l'Église. L'Église qu'il construit, lui, le Seigneur Jésus, chaque instant. La foi, c'est la confiance totale en Jésus qui a promis de bâtir son Église. Et il a commencé à bâtir son Église quand? Eh bien, vous lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, et vous allez voir qu'est-ce que c'est son Église, comment elle est construite. Tout ce qui n'est pas construit de cette manière-là n'est pas une Église construite par lui, mais par les hommes ou les femmes. Seule cette sorte de foi dans les Saintes Écritures nous protège des traits enflammés du malin. Parce qu'on a foi dans les Écritures et non pas dans les traditions, dans les dogmes, dans les... que sais-je. Le contraire de la foi, c'est l'indépendance. L'indépendance était la racine du premier péché. Adam et Ève ont cru qu'ils pouvaient ne pas dépendre de Dieu. Ah, vous serez comme des dieux quand vous aurez mangé de ça, vous allez voir, c'est... Et puis l'indépendance continue d'être l'essence de tout péché contre Dieu. Y compris le péché d'autonomie. Depuis le début de l'Église communautaire, telle qu'elle était voulue par Dieu au commencement, et telle qu'elle est toujours voulue par Dieu, l'Église n'a jamais été aussi tentée par l'autonomie qu'aujourd'hui. Non seulement elle est tentée, mais elle tombe dans la tentation. Et c'est ainsi qu'on voit des églises locales qui deviennent des véritables entreprises, qui sont dirigées par des hommes et des femmes d'affaires, pas par des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. Bien sûr, ils vous parlent de Jésus, bien sûr, ils disent « Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu », mais ils dirigent ça comme une entreprise. Allez dans une librairie chrétienne, vous prenez un petit carnet et vous notez tous les titres des bouquins qui vous parlent de comment... avoir confiance en vous-même, vous allez voir, il y en a beaucoup, hein. Au lieu de faire confiance au Saint-Esprit, la parole terrible de Jérémie s'applique absolument à l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle est ainsi depuis longtemps, mais là, elle a atteint un niveau phénoménal. Jérémie 2,13, voilà ce qui est dit. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. En fait, Dieu se moque d'eux. Il dit, vous ne voulez pas de moi qui donne une pleine assurance, qui donne une totale sécurité. Vous ne voulez pas de moi, vous m'avez mis de côté, vous avez mis de côté ma parole pour vous créer des trucs qui sont tout fissurés, qui perdent l'eau, qui tiennent pas, quoi. Et l'Église, et les membres d'Église aujourd'hui sont désarmés Je reçois des dizaines et des dizaines de requêtes de prières chaque semaine et je vois que les chrétiens sont désarmés. Ils n'ont pas la ceinture de la vérité, ne sachant plus où est la vérité. Mais dans quelle église, laquelle est la bonne, mais où est-ce qu'il faut aller pour écouter, pour être sûr, comment faire? Ils ne savent plus, n'ayant pas de cuirasse de la justice, doutant toujours de leur salut, doutant que Dieu les voit justes. Oh oui, mais quand même, Dieu vous voit juste. Il l'a déclaré au travers du sang de Jésus-Christ. Et ils doutent toujours de ça. Ils n'ont pas la ceinture, la cuirasse de la justice. De la justice que Dieu leur a donnée. Et ils se laissent accuser par leur conscience qui est embrumée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont écouté des pasteurs autoproclamés sans puissance spirituelle, mais simplement du baratin, une logorée verbale, quelque chose d'infernal. Ils n'ont plus le zèle pour proclamer l'évangile, plus de zèle, plus de chaussures qui donnent à sortir de chez eux pour témoigner. Non, ils n'ont pas le temps. Ils se repaissent de messages évangéliques frelatés sur Internet. Ils témoignent de quoi? Ils n'ont même pas d'assurance eux-mêmes. Ils n'ont pas de bouclier et ils se prennent des flèches enflammées du diable sans arrêt. Et ils sont troublés. Alors plutôt que de revenir à la foi biblique, ils courent de réunion en réunion, se faire accueillir par des escrocs patentés qui leur vendent de l'huile bénite, ou de l'eau bénite, ou d'autres idioties. Mon Dieu! Le bouclier de la foi, vous ne pouvez pas avoir le bouclier de la foi si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les exigences de Dieu, la volonté de Dieu qui est écrite dans la Bible. La foi, c'est pourtant tellement reposant, mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi ils s'énervent comme ça, à courir partout. Être caché derrière un bouclier. Alors c'est vrai que, de temps en temps, on sent un choc, parce qu'on tient le bouclier. Mais on n'est pas touché nous-mêmes, c'est le bouclier qui prend tout. On reste dans la sérénité, derrière notre bouclier, et puis on avance contre l'ennemi. On ne recule pas, on avance, on prend du terrain. On est sûr de la victoire, on a toutes les armes pour. Et même si à un moment on tombe, ben c'est à genoux pour prier, pour invoquer le nom du Seigneur. C'est pas parce qu'on est au bout du rouleau. Oh, quand est-ce que le peuple de Dieu cessera de se balader tout nu? Vous allez me dire, mais le peuple de Dieu ne se balade pas tout nu. Si, vous vous baladez tout nu, je suis désolé. Je vais vous le lire dans la Bible. C'est dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Je connais tes œuvres. Et là, il écrit à l'Église, à la dernière Église, du dernier temps, juste avant que Jésus revienne. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Dieu dit, tu me donnes envie de vomir, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ce que les... Quand on prêche, par exemple, en Corinthiens 15, 29, comme je vous parlais tout à l'heure, les gens disent, mais non, non, ça c'est plus pour notre temps, c'est plus pour maintenant. Maintenant, on sait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est une énigme, bien sûr. Vous êtes riche, vous êtes plus intelligent que dans l'église primitive. Vous êtes plus... Voilà, vous êtes mieux. Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, tu ne sais pas que tu es nu. Dans la Bible, Jésus est arrivé un jour, il est arrivé par la mer avec ses disciples, et il y avait un homme qui était là tout nu, qui était possédé, il ne savait pas qu'il était nu. À partir du moment où les démons sont sortis, il s'est habillé. Et les chrétiens ne savent pas pourquoi, parce qu'ils sont devenus des vierges folles, qui ne sont pas protégées, qui sont blessées partout par l'ennemi tout le temps. Alors il dit, je te conseille, c'est le Seigneur qui dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Qu'est-ce que c'est? Il dit, je te conseille d'acheter chez moi. Donc ça va te coûter quelque chose, ça ne va pas te coûter de l'argent, mais ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'honnêteté, ça va te coûter de fiche en l'air tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas vrai. Ça va te coûter. Je te conseille d'acheter chez moi l'or, de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. C'est quoi cet or purifié par le feu? La Bible dit que c'est la parole de Dieu, c'est comme de l'or purifié 7 fois dans le creuset. Alors, premièrement, prends la parole de Dieu. C'est ce dont tu as besoin pour avoir le bouclier, le vrai bouclier de la foi, et non pas des illusions. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé, c'est-à-dire la justice. Vêtements blancs, c'est le vêtement de la pureté. Crois que Jésus t'a purifié. Revêt-toi de ce vêtement blanc, de la justice. Afin que ta nudité ne te paraisse pas, qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, parce que tous ces chrétiens qui disent « Alléluia, Dieu est le Dieu de l'abondance », et puis ils sont pauvres comme Job, j'allais dire. Mais c'est ridicule. Vous croyez que le monde ne vous voit pas quand vous dites « Oui, l'Éternel a dit, tu seras la tête et non la queue. » Mais vous êtes la queue. Pourquoi vous dites alors, mais vous dites des paroles en l'air comme ça, mais vous avez l'air ridicule. Parce que vous ne vivez pas. Vous récitez des trucs, vous dites des trucs, vous voulez faire croire que vous croyez, mais vous ne croyez pas. Voilà pourquoi vous êtes la queue. Et le monde rigole. Qu'est-ce que c'est l'abondance ? Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Mais c'est quoi l'abondance? C'est l'abondance de la vie. Mais vous ne vivez pas, vous vivotez. Vous avez déjà été voir les gens qui vivent fort, à fond. C'est autre chose. Ainsi qu'un remède pour appliquer, à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Un collyre, un remède, quelque chose parce que tu ne vois pas clair. Tu vois pas clair? T'as la vue embrumée par toutes sortes d'enseignements idiots. Tu vois pas les réalités telles qu'elles sont. Aie donc du zèle et repens-toi, voilà ce que Dieu dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de quoi? De l'Église, puisque c'est à l'Église qu'il parle. Il se tient à la porte et il frappe. Si Jésus est à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il est en dehors de l'Église. On va me dire, mais comment? Mais oui, vous avez mis Jésus en dehors de votre Église. Vous êtes là dans votre Église, mais Jésus il est dehors et il frappe à la porte. Il est dehors, pourquoi? À cause des scandales, à cause de on ne veut plus de lui, on se débrouille très bien. On a un bon programme, on a l'argent qu'il faut pour faire, on a des hommes intelligents, on a des femmes intelligentes. Aujourd'hui, c'est plus comme du temps de l'apôtre Pierre. Le temps des miracles, c'est fini ça, faut arrêter. Puis d'abord, ceux qui font des miracles, la Bible dit, c'est des miracles mensongers. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle mensonger? Mais c'est toutes ces idioties que vous voyez dans les réunions de ces gens qui se roulent par terre, soi-disant c'est des miracles. Ah bon? Ils repartent chez eux, ils sont toujours... Allons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai dans son église. Non, il ne rentre pas dans l'église. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus en a marre, mais marre de ces églises. Ça fait 2000 ans qu'il est là à regarder tout ça. Et il ne veut plus de tout ça. Il est à la porte parce qu'il sait que dedans il y a des gens sincères, il y a vous, vous êtes sincères. Vous cherchez vraiment la vérité, il frappe, puis si vous entendez sa voix, vous ouvrez et vous sortez, vous allez chez vous, avec lui, et vous mangez avec lui. Moi, je mange tous les jours avec Jésus à ma table. Jésus en Philippe, Jésus en Dominique, Jésus en Samuel, Jésus en Stéphane, Jésus en Michou, Jésus qui vit dans Marie-Claire, qui vit dans Olivier, qui vit dans Mélodie, qui vit dans Lucas, qui vit dans Élise, qui vit dans Timothée, qui... Voilà, je mange avec Jésus tous les jours. Et on prend la Sainte Cène à table, ensemble. Tous les jours. Et c'est ça que Jésus veut. Il veut rentrer chez vous et vivre avec vous. Et Jésus continue en disant, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, j'ai aussi vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont être vainqueurs vont devenir des régnants, les autres vont devenir des rampants. Vous aurez été rampants toute votre vie, vous allez être sauvés comme au travers du feu, et puis vous allez passer l'éternité dans un degré de gloire qui sera petit. Il y a trois niveaux de gloire. Un niveau comme le soleil, un niveau comme la lune, un niveau comme les étoiles. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Vous voulez quel niveau de gloire? Seuls ceux qui seront les vainqueurs pourront avoir un niveau de gloire tel que Jésus a. Une autorité. Les autres, ce sera des, voilà, des rampants, des gens qui ils sont là, et puis ils ouvrent la porte, ils font des figurations, c'est comme... Comme Louis de Funès, pendant des années, il a fait de la figuration dans les films. On le voyait dire « Madame est servie !» Il fermait la porte, non, vous savez. Il fait la figuration dans le paradis pour l'éternité. C'est ça que vous voulez? Il y en a qui disent « Oh, mais moi, pourvu que j'ai un strapontin au fond du ciel, ça me suffira bien. » Ben, vous avez tort, parce que là, vous allez regretter. Quand vous allez voir tout ce que vous auriez pu faire et avoir dans l'éternité, puis que vous avez raté, parce que dans votre vie, tout simplement, vous n'avez pas voulu écouter les serviteurs de Dieu qui vous disaient véritablement ce qui est écrit dans la Bible. C'est dommage quand même. C'est quand même dommage. Et Jésus termine en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il est très conscient qu'il y en a qui n'ont pas d'oreilles. Pas d'oreilles. Ils n'entendent rien. On leur parle, ils disent « Amen !» Puis ils continuent leur petite vie, leur petit train-train, leur petit machin, sans bouclier de la foi. Ils se font avoir à tous les coins de rue. Puis ils se plaignent, ils disent « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ben, Michel Janton te l'a dit, ce qui se passe. Alors maintenant, il est temps que tu bouges. Vous savez, il y a des tas de maisons autour de chez nous. Enfin, pas autour de chez nous, autour de chez nous. La première maison, tout près de la communauté, elle est à 1,5 km. Mais il y a des tas de maisons dans la région qui sont abandonnées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui habitaient là dans le coin et qui sont rentrés chez eux. Et ces maisons, ils veulent les vendre. Si vous dites, Michel, on veut venir vivre en communauté, pas de problème. On achète une grande maison, deux grandes maisons, trois grandes maisons, et on crée des communautés où vous pourrez passer vos jours avec nous, comme les premiers chrétiens, prenant leur repas en simplicité de cœur, dans la paix, tranquillement, vieillir tranquillement, plutôt que d'aller mourir dans un EHPAD où on vous maltraitera, où on vous piquera tout votre pognon. Hein? Ça, c'est des idées, c'est des projets que nous avons. Alors maintenant, est-ce que vous allez rentrer dans ces projets? Il y en a qui me disent, oui, j'y pense, et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Mais tout au fond de moi, je sais que... Oui. Oh, ben... Maintenant, c'est peut-être un peu trop tard pour y penser. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard pour faire la volonté de Dieu. Prendre le bouclier de la foi. Et se défendre. Être vainqueur. Ça vous plairait pas? Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message et pour ceux qui ont aussi regardé la vidéo, les bénir, les encourager et leur donner de se détourner de ceux qui vont bientôt être marqués au fer rouge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.